Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée, à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza et Quentin Duchemin.
Bonjour à tous, vous écoutez Graphite sur 94.9 et graphite.net. Je suis Stéphane Poinsard, je suis en direct du studio avec quatre étudiants de l'Université de Technologie de Compiègne, Oussem, Camille, Mathieu et Tom. On se retrouve pour des émissions autour du cours de WE1, écrire sur le web à l'UTC. Les étudiantes et étudiants viennent y présenter le résultat de leur travail de recherche du semestre, articulé autour de questions socio-techniques portant sur le web. En WE1, nous abordons les thèmes de l'histoire du web, du capitalisme de surveillance, des logiciels libres, du web décentralisé. On voit aussi des techniques et méthodes de lecture et d'écriture scientifique. On y découvre le fonctionnement d'Internet. Vous aussi, vous pouvez les découvrir sur le site librecours.net. Le thème abordé pour cet épisode est intelligence artificielle et école. Je vais passer à la parole à Oussem qui va nous en dire plus.
Bonjour à tous, bonjour Stéphane. Alors mon groupe et moi allons évoquer aujourd'hui la question de l'IA, cette fois dans le cadre scolaire. Alors l'intelligence artificielle a révolutionné de nombreux secteurs et l'éducation n'y échappe pas. Dans un monde en constante évolution technologique, l'intégration de l'IA dans les écoles soulève à la fois des opportunités prometteuses et des interrogations légitimes. Arrêtons-nous quelques instants. Les quelques mots que vous venez d'entendre ont été générés par une IA. Pourtant, si je ne l'avais pas fait remarquer, aucun d'entre vous ne s'en serait rendu compte. D'après une récente enquête menée dans 16 pays en août 2024 par la Communauté mondiale de l'innovation en matière d'éducation, la Digital Education Council, 86% des étudiants indiquent utiliser l'intelligence artificielle dans le cadre de leurs études. Cela n'est pas étonnant quand on sait que les nouveaux systèmes d'IA générative obtiennent de bien meilleurs résultats que les élèves moyens dans la plupart des tests standardisés, et leur score figure souvent parmi les 10, voire les 1% des résultats les plus élevés d'après une récente étude de l'UNESCO, menée en 2024. Et naturellement, le fléau de la triche ne peut qu'augmenter, puisqu'en plus de vous produire un travail, ce dernier peut être relativement qualitatif. C'est par exemple le cas en Angleterre, où depuis l'arrivée de ChatGPT, les cas de triche ont augmenté de près de 20% d'après une étude de l'université de Stanford. Prenons l'exemple de l'université de Birmingham City, où près de 75% des étudiants ayant triché assument avoir utilisé ChatGPT. Mais alors, pourquoi les politiques n'interdisent-elles pas simplement l'IA dans le milieu éducatif ? En fait, l'IA, au-delà du fait qu'elle puisse être utilisée à des fins malveillantes telles que la triche ou le plagiat, elle peut aussi être un excellent outil éducatif puisqu'elle peut interagir et personnaliser ses réponses en fonction de chacun. Des enseignants et des neuropsychologues se sont penchés sur la question en mettant au point une expérience sur plus de 100 enfants en Nouvelle-Aquitaine dans des classes de CE1. L'expérience consiste à étudier le progrès d'un élève en maths, d'un côté quand les exercices étaient produits par l'IA personnalisée, et dans l'autre quand ils étaient produits par un expert en didactique des mathématiques. Mais avant d'aller plus loin, écoutons d'abord les conclusions de cette expérience dans la webconférence de Jean-Yves Houdayé, Intelligence artificielle, curiosité et éducation, parue sur YouTube le 9 février 2024.
Dans les classes, il y a maintenant 4 ou 5 ans, en Nouvelle-Aquitaine, auprès de plusieurs centaines d'élèves de niveau CE1, dans lesquels on a essayé de comparer l'impact d'utiliser ce type de personnalisation, utilisant des méthodes d'intelligence artificielle qui essayaient d'identifier les niches de progrès pour les enfants, avec des séquences d'exercices qui étaient faites à la main par un expert en didactique des maths, et qui ressemblait à une progression comme dans un jeu vidéo où, étant donné un niveau, pour passer au niveau suivant, eh bien, il faut atteindre un certain pourcentage de réussite, et puis la progression est linéaire. Et donc, on a essayé de comparer ces approches de deux manières différentes. La première manière, c'est qu'on s'est intéressé d'abord à l'intérieur de l'utilisation de ces deux types de parcours. Est-ce qu'on arrivait à amener, à quel point, où est-ce qu'on arrivait à amener les élèves? On s'est aperçu que le système qui personnalisait avec l'intelligence artificielle permettait d'amener une plus grande diversité d'élèves plus loin que celui qui était fait à la main. On peut le comprendre parce qu'en réalité, celui qui est fait à la main, par exemple, il y a beaucoup d'élèves, par exemple, qui ont des facilités et qui vont être très frustrés au début d'être obligés de passer tous ces niveaux faciles pour atteindre les niveaux plus durs. Et donc, parfois, ils vont abandonner, ils vont penser à autre chose, etc. Et puis, il y a des élèves qui vont se retrouver bloqués sur un truc et puis bon, le système fait à la main ne va rien leur proposer d'autre.
Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous venons d'entendre un extrait de la webconférence de Jean-Yves Oudeyer qui évoque une expérience réalisée sur 100 enfants en Nouvelle-Aquitaine permettant d'étudier l'impact de l'IA personnalisée dans le cadre pédagogique. Que pouvons-nous donc conclure de cette expérience ? Finalement, l'utilisation des méthodes d'IA personnalisées ont permis à un plus grand nombre d'élèves de progresser davantage. Alors que l'IA propose des exercices en fonction du temps d'exécution et du taux de réussite des précédents, l'expert, lui, se contente de proposer une suite d'exercices pour tous les élèves qui s'adaptent seulement au niveau moyen de la classe. Ainsi, les méthodes d'IA personnalisées auraient un impact positif sur la motivation des élèves. C'est en tout cas ce qu'affirme Jean-Yves Oudeyer dans la suite de sa webconférence. Les élèves qui ont des facilités se lasseraient rapidement des premiers exercices, souvent les plus simples et très répétitifs, tandis que ceux qui ont des lacunes auraient davantage de mal à réussir, ce qui les découragerait. Notons aussi que cet usage pourrait contribuer à faire diminuer la pression au travail des enseignants, devenue parfois trop importante. Finalement, à travers cette expérience, on s'aperçoit bien que l'IA peut être une plus-value pédagogique et ne pas l'exploiter en l'interdisant simplement serait regrettable puisque certains de ces usages contribuent à l'amélioration du système éducatif.
Merci, je vais passer la parole à Camille.
Oui, merci. Donc, comme vient de nous montrer Oussem, les IA dans l'éducation sont de plus en plus présentes et leur utilisation nous offre des avantages indéniables. Cependant, leur utilisation intensive comporte aussi des risques majeurs, notamment celui de créer une forte dépendance chez l'élève. En effet, lorsque ce dernier utilise les IA pour rechercher des informations ou obtenir des réponses, une dépendance et une confiance excessive peuvent s'installer. Et cela devient particulièrement préoccupant dans un contexte où ces outils sont souvent présentés comme des systèmes supérieurs à l'intelligence humaine. Et donc cette confiance aveugle envers les IA peut empêcher les élèves de développer leur propre créativité et leur propre pensée critique. Comme nous l'affirme Neil Selwyn, je cite donc, « L'automatisation croissante par l'IA soulève des enjeux critiques sur l'agentivité des élèves, risquant de limiter leur développement autonome et leur capacité de réflexion cognitive. » Donc pour clarifier un peu cette citation, l'agentivité désigne la capacité de l'être humain à agir de façon intentionnelle sur lui-même, sur les autres ou bien même sur son environnement. Or, nous savons pertinemment que ces compétences intellectuelles sont indispensables pour leur réussite scolaire et pour leur vie future. Donc si les élèves s'habituent à recevoir des réponses générées automatiquement, eh bien ils risquent de perdre leur capacité à chercher par eux-mêmes, à remettre en question les informations reçues, ou bien même à formuler leur propre interrogation. Et donc cette perte d'autonomie cognitive limite leur développement personnel et intellectuel, particulièrement important pour cultiver un esprit critique. Donc pour mieux comprendre les implications de cette dépendance à l'IA, je vous propose d'écouter un extrait d'une présentation réalisée dans le cadre du webinaire « Usage de l'IA en éducation, retour d'expérience et perspective » par Pierre-Yves Oudeyer.
Mais il y a aussi évidemment deux grands enjeux et des défis éducatifs. Par exemple, on sait que des élèves qui vont interagir avec des modèles de langage pour chercher les informations, par exemple, soit par eux-mêmes sur un sujet qui est leur sujet favori, ou parce que le prof leur a demandé de faire un dossier sur tel ou tel sujet, eh bien, en fait, par la manière dont le modèle de langage s'exprime avec beaucoup d'assurance et par les messages qu'ils reçoivent dans les médias où on entend ici que ce sont des systèmes super intelligents qui dépassent la capacité des humains, etc., ça va amener les enfants à avoir une confiance surestimée dans la validité des informations qui leur sont données. Et ce qui est embêtant, c'est que ça va les amener à prendre des points de vue qui leur sont donnés par ces modèles de langage, qui sont parfois faux, qui sont parfois biaisés, par exemple par une vision californienne dont on entendait tout à l'heure. Et ce qui est embêtant, c'est qu'on sait aussi qu'une fois que ces connaissances ou ces croyances acquises dans ce contexte-là arrivent dans le cerveau d'un enfant, il est très, très, très compliqué de les corriger. C'est très difficile d'un point de vue méthodologique et pédagogique de les corriger.
Ici, Pierre-Yves Oudeyer montre à quel point une confiance excessive dans les IA peut influencer les élèves. Et ces derniers vont donc intégrer des points de vue qui ne leur sont pas propres et difficiles à changer par la suite. Face à chaque nouveau travail, les élèves ont tendance à utiliser automatiquement ces outils, dégradant leur autonomie intellectuelle. Ainsi, ils perdent l'habitude de réfléchir par eux-mêmes et de réaliser des productions originales. Et ce phénomène, eh bien, il vient réduire l'effort de réflexion et vient nuire à la diversité des perspectives dans les travaux académiques. Or, dans un environnement où l'innovation et l'originalité sont valorisées, eh bien, cela devient un handicap. Les étudiants se contentent des solutions générées par des IA sans même les remettre en question. Et cette situation, eh bien, elle a des conséquences non seulement sur leur parcours scolaire, mais aussi sur leur capacité à s'adapter à des environnements professionnels dans le futur.
Merci, et je vais passer la parole à Mathieu.
Merci beaucoup. Alors, avec l'émergence rapide des technologies d'intelligence artificielle, la question de leur place dans le système éducatif est devenue incontournable. Certains élèves utilisent déjà des outils comme ChatGPT pour réaliser leurs devoirs en dehors des heures de cours, et cette réalité pose un véritable défi aux enseignants. Face à cette évolution, si nous ne pouvons pas en éviter l'usage, nous pouvons être amenés à se demander comment mieux intégrer l'IA dans nos écoles. Pour aborder cette question, il est intéressant de s'appuyer sur l'approche de Carol Bashi, What's the problem represented to be? Quel est le problème représenté? Cette méthode, employée en analyse des politiques publiques, propose d'examiner comment les problèmes sont formulés dans les discours politiques et institutionnels, car cette formulation influe directement sur les solutions envisagées. Prenons l'exemple des élèves perturbateurs. Selon que l'on considère l'élève comme responsable de son comportement ou que l'on mette en cause son environnement, les solutions varient entre la punition et l'accompagnement. Appliqué à l'IA, le débat peut se poser ainsi. Le problème est-il que les élèves trichent avec l'IA ou bien que le système éducatif n'est pas adapté aux outils modernes? Pour enrichir cette réflexion, écoutons un extrait de l'interview d'Amanda Sters, diffusée sur la chaîne numérique School TV, au sujet de son roman d'anticipation Résistance 2050.
L'augmentation des humains, elle va passer par la fin de l'éducation.
En tout cas, dans notre vision-là, ouais. Dans ce récit-là, en fait, évidemment, il fallait aussi pour poser des questions que ce soit clivant, donc qui est deux côtés assez clairement dessinés. Évidemment, on n'arrête pas de parler de ChatGPT, mais si d'un coup on l'avait dans la tête, si on avait un moteur de recherche dans la tête, à notre plus jeune âge, qu'on pouvait maîtriser des langues à l'infini, qu'on pouvait avoir la connaissance en tout cas. Quel est le besoin d'aller à l'école? Évidemment, on sait qu'on apprend plein de choses à l'école qui sont autres que ce qu'on apprend dans la salle de classe. Ce que c'est de vivre en société, apprendre à travailler, apprendre le sens de l'effort. Voilà, comment tout ça... et ça, c'est une chose que j'ai beaucoup apprise avec Aurélie, c'est qu'il y a des différences d'intelligence, il y a des différences de façon d'apprendre.
Dans cette interview, Amanda Sters imagine un futur où l'implantation des connaissances infinies dans le cerveau rendrait l'école obsolète. Cette vision soulève une question essentielle. À quoi sert l'école si l'accès au savoir devient instantané? Elle explique que l'école ne se limite pas qu'à transmettre des connaissances, mais aussi être un lieu d'apprentissage de compétences essentielles, comme la collaboration, la résolution de problèmes et la persévérance face aux défis. C'est un espace où on accumule du savoir, mais aussi où on en apprend à se développer et à interagir avec les autres. Le problème que vient donc soulever l'IA est que les méthodes évaluatives actuelles que nous prenons ne prennent pas suffisamment en compte ces aspects de l'enseignement. Certes, les enseignants cherchent souvent à évaluer le raisonnement. Même dans un exercice mathématique, l'élève doit expliquer ses calculs s'il veut obtenir une bonne note. Mais l'arrivée de l'IA complexifie cette démarche. En effet, des IA comme ChatGPT peuvent désormais produire le résultat final, mais aussi rédiger le raisonnement et les démonstrations de manière bien structurée et détaillée. Cela signifie que même si l'élève présente un raisonnement complet, il n'est pas garanti que ce dernier maîtrise réellement la compétence évaluée ou bien qu'il ait fourni des efforts pour y parvenir. D'autant plus qu'actuellement, les outils comme ChatGPT sont capables de produire des rédactions ou de passer des examens. Par exemple, un article du Figaro datant du 19 juillet 2023 nous explique que le chatbot médical MedPal-M de Google a réussi l'examen de médecine USMLE, un examen de médecine aux États-Unis, avec un score de 67,6%. Légèrement inférieur à celui des humains, mais encourageant pour un outil d'IA. Une version améliorée, MedPal M2 a atteint 86,5% et est actuellement testé pour des tâches administratives d'un hôpital prestigieux. L'IA ne crée pas seulement des problèmes, elle met à jour les limites du système actuel. Aujourd'hui, les évaluations se concentrent sur le résultat final, souvent sans considérer le cheminement de l'élève, ses stratégies, sa méthode, ses efforts. Au vu du potentiel des IA, il est naturel que les élèves choisissent la facilité, car ce qui compte, c'est ce qu'ils rendent et non comment ils l'ont produit. L'utilisation de l'IA souligne l'importance d'évaluer différemment, en valorisant la créativité, le raisonnement et l'autonomie, comme le rappelle la Convention relative aux droits de l'enfant. L'objectif de l'école est de développer l'autonomie de l'enfant, de stimuler ses compétences et sa capacité d'apprentissage, tout en renforçant son estime de soi. En conclusion, il ne s'agit pas seulement de se demander comment intégrer l'IA au système éducatif, mais aussi de réfléchir à l'inverse, comment adapter le système éducatif à l'évolution technologique. Ainsi, au lieu de considérer l'IA comme une menace, faisons-en un levier pour transformer et améliorer nos méthodes d'enseignement.
Merci beaucoup, et nous allons maintenant passer la parole à Tom.
Très bien. Eh bien, pour nuancer notre passage, je vais aborder un nouveau point de vue. En effet, depuis le début de notre passage, nous avons parlé d'utiliser les IA dans l'enseignement. Cependant, il faut bien les développer, ces outils, ou du moins apprendre à les utiliser à leur plein potentiel. Je vais donc voir avec vous l'importance d'enseigner la technique de développement de l'IA dans un cadre national. Comme le décrit très bien le maître de conférence Stéphane Amarzi, l'IA est en train de devenir un nouveau levier de développement et sera d'ici quelques années le facteur qui déterminera la puissance d'un État ou d'une entité. Il fait un comparatif très intéressant avec notre histoire. À l'époque où l'industrie était le facteur majeur de développement d'une nation, l'État a mis en place une école industrielle. Et on constate que les nations qui ont su prendre ce virage très tôt sont de nos jours des puissances majeures. Prenons le cas très concret du Japon qui a réalisé une industrialisation massive de son territoire qui lui ont permis de devenir une puissance mondiale. Et comme disait encore une fois de plus Stéphane Amarzi, aujourd'hui sur le marché du travail, ce qui est valorisable, ce sont les compétences industrielles. Mais d'ici quelques années, les compétences dans le domaine de l'IA pourraient bien les supplanter. C'est pour cela qu'il est essentiel de former une nouvelle génération d'étudiants dans ce domaine pour être compétitif à une échelle nationale, voire mondiale. Donc comme le souligne Yann LeCun, chercheur renommé en IA, l'intelligence artificielle est un défi passionnant qui repousse sans cesse les limites de ce que nous pensions possible. C'est un domaine qui ne cesse de nous surprendre et de nous émerveiller. Étudier l'IA, c'est donc aussi une aventure personnelle stimulante. C'est l'occasion de repousser ses propres limites, d'explorer des concepts nouveaux et satisfaire sa soif d'apprentissage, et de le comprendre. Ce que Yann LeCun cherche à nous montrer ici, c'est l'apprentissage de l'IA est un intérêt à grande échelle, mais aussi à une échelle plus personnelle. Pour appuyer nos propos, nous allons écouter un passage de la conférence de Stéphane Amarzi, Le futur est déjà là, publié en juin 2024.
Dans l'entreprise, ça peut être partout. Ça n'a pas du tout valeur d'exhaustivité, ce que je vous présente, mais c'est simplement pour vous montrer qu'il y a plein de sujets qui peuvent traiter par l'IA. Alors, certains d'entre vous, par exemple, travaillent sur des appels d'offres, j'imagine, vous, vos secteurs d'activité. Utilisez l'IA pour utiliser l'appel d'offres. Je vais juste vous raconter une petite histoire. Première chose que vous faites, vous récupérez l'appel d'offres, vous le mettez dans l'IA, vous lui demandez tous les points clés. Au passage, vous lui demandez de vérifier s'il n'y a pas des incohérences dans l'appel d'offres, ce qui arrive rarement, n'est-ce pas, d'avoir des incohérences dans les appels d'offres. Vous allez vérifier tout de suite. Ensuite, vous allez, évidemment, si vous l'avez éduquée, elle connaît vos forces, vos faiblesses, vous allez lui demander, par rapport à mes forces, mes faiblesses, qu'est-ce qui est bien ou pas. Si vous avez des fichiers Excel avec 153 lignes à remplir, ça aussi, si vous l'avez éduquée, elle peut le faire. Ne l'envoyez jamais sans avoir relu, par contre.
Pour analyser ce passage, je vais appuyer mes propos sur une citation d'Alvin Toffler. Je cite, « Les illettrés du XXIe siècle sont ceux qui ne savent pas apprendre, désapprendre et réapprendre. » Même s'il n'a pas écrit directement sur les IA, cette citation se prête bien à notre cas. Ce que Toffler insinue dans cette situation, c'est qu'il est indispensable de se remettre en question pour rester compétitif et à jour. En effet, Stéphane Amarzi nous dit, à titre personnel, que l'apprentissage de l'IA et ensuite son utilisation lui a permis d'économiser de 20 à 30% de son temps de travail, et il pense qu'avec le temps, ce pourcentage pourrait être encore amélioré. Nous commençons à nous rendre compte que l'IA est un outil de productivité qui peut avoir un impact sur notre avenir professionnel. Malgré ses risques et ses limites actuelles, l'IA permet de réaliser rapidement certaines tâches qui prennent un certain temps à un humain. En tant qu'étudiant ingénieur qui rêve d'améliorer le monde dans lequel nous vivons, je pense que l'IA est un outil de fort potentiel pour y parvenir.
Merci beaucoup. Et on va maintenant passer à quelques questions. Donc des questions qui en majorité sont travaillées par les étudiants, vos collègues étudiants à l'UTC. Mais je vais poser la première. Imaginez si un jour une école d'ingénieurs proposait le choix de suivre des travaux dirigés, soit qui sont animés par un chargé de TD en chair et en os, soit animés par une intelligence artificielle. Qu'est-ce qui motiverait les étudiants à choisir l'intelligence artificielle ou à choisir l'être humain ?
Je pense que ça dépend du type de caractère de chaque élève, puisqu'on a un premier TD
qui est dirigé donc par les humains. Donc je pense que ça dépend des comportements de chaque élève, puisqu'on a un premier TD par exemple qui est dirigé par un humain, et donc ici on a toutes les questions sociales avec les interactions humaines et le professeur qui peut également parler de ses expériences, alors que d'un autre côté on peut avoir donc un TD dirigé par une IA qui peut être peut-être plus favorable pour des personnes qui sont timides ou qui sont plutôt qui sont timides et donc qui pourraient il n'y a pas la question de jugement avec les IA, ça dépend, mais je pense. Et donc je pense que ça dépend vraiment des caractères, des difficultés aussi de chacun et de la façon dont on fonctionne et de nos méthodes de travail. Si on préfère apprendre en parlant, en ayant des discussions, ou si on préfère apprendre en faisant vraiment des exercices type, je pense que ça dépend.
Moi, je rajouterais peut-être aussi que, c'est une vision un peu dystopique d'imaginer de faire le choix entre notre cher professeur de TD Stéphane et une IA. Je pense que l'IA, elle sera jamais complètement, elle pourra jamais complètement remplacer un professeur, mais l'accompagner, ça, c'est sûr que ça pourra arriver, comme nous l'avait un peu décrit Oussem.
D'accord. Alors merci. On va continuer sur une autre question. Est-ce qu'il y a une addiction à l'IA? Pour un étudiant, par exemple, qui travaille avec l'IA.
Je ne parlerai pas d'une addiction, mais c'est en fait, c'est vu comme une facilité, parce qu'un élève, simplement en écrivant une phrase sur ChatGPT, tout un travail de parfois des heures peut se faire en quelques minutes. Donc ce n'est pas de l'addiction, mais c'est juste que ça facilite et que ça fait gagner du temps, gagner beaucoup de temps en fait. Ouais, je ne parlerai pas d'addiction, quoi.
D'accord. Alors, une dernière question. Vous avez parlé des risques et des limites de l'IA. Est-ce qu'il y a des solutions par rapport à ça pour éviter une mauvaise utilisation ou de tomber dans les risques que vous avez évoqués, d'utiliser l'IA de manière plus intelligente?
Justement, comme je pouvais l'indiquer lors de ma partie, il est important d'éduquer en fait notre nouvelle génération à utiliser les IA correctement et donc pas avoir une confiance aveugle, complètement aveugle en l'IA. Donc toujours remettre en question, toujours aller rechercher plus de sources et pas hésiter à demander à l'IA de nous sourcer ce qu'elle nous dit. Ce quoi qu'elle arrive, l'IA nous dit quand même des choses qu'elle a apprises quelque part. Donc faut pas hésiter à lui demander où est-ce qu'elle a appris ça pour qu'on puisse aller vérifier. À titre, par exemple, pour aller voir une thèse d'un chercheur qui sera plus précise que ce que l'intelligence artificielle pourrait nous dire.
Merci beaucoup. On va conclure là-dessus. Donc c'était Intelligence artificielle et école avec Oussem, Camille, Mathieu et Tom, et moi aussi, Stéphane Poinsard. Je vais également citer Stéphane Croza, le responsable des enseignements de WE01 à l'UTC, et Quentin Duchemin qui, comme moi, anime un groupe de TD, que je remercie pour l'aide à l'organisation de ces émissions. Cette émission est donc réalisée dans le cadre du cours WE1, et le projet librecours.net. Elle est diffusée en direct depuis le studio Graphite le 18 décembre 2024. Et c'est le dernier épisode de la radio de WE1 pour ce semestre. Je vous remercie de votre écoute. Au revoir à tous.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.